Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, on les appelle les MNA, les mineurs non accompagnés, en grande majorité des garçons migrants de 16 ou 17 ans qui ont vécu l'enfer dans l'espoir de pouvoir s'installer en Europe. Ils seraient 160 000 à avoir tenté leur chance sur le continent depuis 2015. Voilà pour les chiffres officiels qui ne prennent pas en compte tout ce passé à la clandestinité. Car à 18 ans, les mineurs deviennent jeunes adultes et tous les systèmes de protection disparaissent. C'est pour éviter ce grand saut dans le vide que l'Italie et la région de Naples ont mis en place des programmes d'accompagnement parmi les meilleurs d'Europe. C'est le reportage de Cécile Debarge.
Lorsqu'il a quitté les côtes d'El Jadida, à 96 km de Casablanca, Hamza Bozziane était accompagné d'un seul membre de sa famille, sa petite sœur. C'était il y a 3 ans, elle avait 10 ou 11 ans, lui à peine 15. Les deux enfants traversent la mer, première étape en Italie, Palerme, puis Naples, après un long voyage en train. Ils sont alors pris en charge par l'État italien jusqu'à leur majorité, car à 18 ans, un mineur étranger devient aux yeux de la loi un adulte étranger et ne relève plus du même statut protégé. Un mouvement souvent redouté par les mineurs, raconte Hamza.
Je me suis préparé mentalement et physiquement aussi. Tu te dis, maintenant c'est moi qui commence à tout faire. Il n'y aura plus personne pour m'aider.
Hamza Bozziane fête son anniversaire le 15 avril dernier.
Bien sûr, j'ai fait la fête avec mes amis et après 3 jours, j'ai fait ma valise. L'assistante sociale m'a appelé et elle m'a dit que j'avais été accepté par la mairie de Naples dans un projet d'accompagnement. Ce sont eux qui nous choisissent, donc j'ai fait mes valises et ils sont venus me chercher.
Ces valises, il les pose dans un appartement où se trouvent déjà 4 autres jeunes majeurs, comme lui. Certains travaillent, d'autres étudient. Hamza, lui, suit l'équivalent de la première au lycée touristique et réalise pendant 6 mois un stage dans une agence de voyage de la ville. Tout cela est rendu possible par le PAG, littéralement le projet d'accompagnement guidé mis en place par la mairie de la ville sur la période 2018-2021. Les jeunes adultes sont très épaulés pendant 1 an.
Ensuite, je commencerai à faire les choses seul. C'est moi qui chercherai ma maison, même si je serai aidé pour la louer. Le projet continue de nous soutenir, notamment avec une aide financière pour payer l'eau, l'électricité, l'appartement. Sinon, on est complètement seul.
Bonjour, bonjour et bonjour.
À quelques centaines de mètres de la gare de Naples, dans une ruelle adjacente au turbulent boulevard Garibaldi, la coopérative Dédalus accompagne plusieurs jeunes majeurs comme Hamza Bozziane. Glauco Iermano est le responsable des projets concernant les mineurs isolés étrangers depuis 2007. La coopérative suit une 30aine de jeunes majeurs, mais aussi de mineurs, avec qui le travail préparatoire au passage à la majorité commence très tôt.
Notre travail consiste à préparer au mieux ces jeunes au passage à la majorité dès leurs 16-17 ans. Ça veut dire leur donner des outils linguistiques, une formation, mais aussi des papiers, pour que lorsqu'ils fêtent leurs 18 ans, ils puissent se débrouiller seuls dans le monde des adultes étrangers.
En mars 2017, l'Italie adopte la loi Zampa qui protège les mineurs isolés étrangers et considérée selon plusieurs ONG de protection de l'enfance comme l'un des dispositifs législatifs les plus protecteurs d'Europe. Dans la foulée du texte, et depuis 3 ans environ, selon Glauco Iermano, les autorités italiennes délivrent de plus en plus fréquemment des prolungamenti, soit, d'un point de vue administratif, le fait de prolonger la protection dont bénéficient les mineurs pendant une durée de quelques mois à 3 ans.
Tous ceux qui ont eu l'opportunité de bénéficier d'une prolongation, de renforcer les compétences acquises, de grandir en étant suivis, aujourd'hui, ils sont tous plus ou moins insérés dans la vie professionnelle, ce qui est la première étape.
Pour les mineurs qui ne peuvent en bénéficier, le passage à la majorité est bien plus critique, explique Mohamed Awali, éducatrice au sein de la coopérative Dédalus.
C'est critique parce que ces jeunes n'ont pas de famille, pas de proches. Donc le seul soutien qu'ils trouveront, c'est celui des délinquants. Et là, vous en trouvez tout de suite des amis.
Mohamed Awali est arrivé de Somalie il y a près de 33 ans en Italie. Et depuis plus de 20 ans, elle accompagne les migrants au sein de la coopérative. Parmi les nombreux mineurs qu'elle a suivis, certains n'ont pas eu la chance d'Hamza.
La plupart d'entre eux ont mal fini, ils sont partis à la dérive. Ils n'ont aucun point de référence et la plupart se retrouvent à dealer. Ils mènent une vie pas reluisante.
Un immense gâchis pour Glauco Yermano, le responsable des mineurs isolés étrangers au sein de la coopérative.
Après 18 ans, si on ne poursuit pas le travail qu'on a commencé, on perd tout. C'est de l'argent gaspillé. Je dirais même plus, c'est une vie gaspillée. C'est vraiment du gâchis.
Selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail et des Politiques Sociales, au 30 septembre 2019, l'Italie a accueilli 6798 mineurs isolés étrangers. Près de 25% d'entre eux viennent d'Albanie. Puis, les pays de provenance les plus représentés sont l'Égypte, le Pakistan, la Côte d'Ivoire et la Gambie.
En Bosnie-Herzégovine aussi, les candidats à l'intégration sont légion, coincés à la frontière de l'Union européenne au nord-ouest du pays. Dans la région de Bihać, une association d'enseignants s'est mobilisée pour venir en aide et scolariser les plus jeunes. Les explications de Simon Rico.
Collé à la Croatie, le canton d'Unasana accueille plusieurs milliers de candidats à l'exil. Tous espèrent rejoindre l'Union européenne, mais la police qui patrouille massivement sur la frontière les renvoie manu militari en Bosnie. Certains sont bloqués ici depuis plusieurs mois, dont plusieurs centaines de mineurs, accompagnés ou non. La majorité viennent d'Irak, de Syrie, du Pakistan et d'Afghanistan. Face à cet afflux d'enfants, un groupe d'enseignants du coin a décidé de prendre en charge leur éducation. Leur objectif, intégrer et éduquer ces jeunes depuis longtemps déscolarisés, mais aussi leur redonner un peu d'espoir. Cela a commencé il y a quelques mois par des interventions purement bénévoles dans les camps, jusqu'à ce que l'Organisation internationale des migrations qui gère ces centres d'accueil, l'UNICEF et l'ONG Save the Children ne se décident à débloquer des fonds pour que les écoles du canton d'Unasana puissent accueillir ces mineurs. Les enseignants bosniens suivent désormais une courte formation pour pouvoir encadrer au mieux ces élèves issus d'une autre culture et qui ont pour la plupart vécu des expériences traumatisantes avant d'arriver en Bosnie. Avant leur entrée à l'école, les petits réfugiés doivent passer une visite médicale et avoir leur vaccin à jour. Ils suivent des ateliers préparatoires où ils apprennent les bases de la langue serbo-croate nécessaire à leur entrée dans les écoles publiques locales. Les réticences initiales de certains parents bosniens ont vite été oubliées et ils sont même de plus en plus nombreux à espérer que ces jeunes réfugiés s'installeront durablement pour redonner de la vie à cette région qui se vide de ses forces vives. Mais ce programme de scolarisation qui profite à 250 mineurs, reste très précaire. Pour le moment, les autorités de Bosnie-Herzégovine refusent de mettre la main à la poche.
Et en Grèce, c'est la musique qui peut aider ces enfants à se relever, à s'évader aussi, et pourquoi pas aussi à mieux connaître la société grecque. Cours de violon, d'alto, solfège, chorale et orchestre sont proposés gratuitement par l'ONG Systema. Reportage à Athènes, signé Joël Bronner.
1, 2, 3, 4.
We come with helicopter. From Afghanistan.
Ahmad, 8 ans, n'est pas arrivé en Grèce depuis l'Afghanistan par hélicoptère. Mais ça fait rire ce petit garçon rêveur de raconter son exil comme ça. Ahmad habite à présent dans le camp de réfugiés de Skaramagas, dans l'ouest d'Athènes. Une succession de bâtiments préfabriqués, tous d'apparence identique, à deux pas de la mer. Dans l'un d'eux, cet après-midi-là, violon ou alto entre les mains, Ahmad et une quinzaine d'enfants et d'adolescents ont cours de musique. À la baguette, ou plutôt à l'archet, Eleni Liora. Parmi ses élèves, Abir, une adolescente kurde originaire de la région d'Alep. Cela fait 3 ans qu'elle vit dans ce camp, dont les solutions d'hébergement sont supposées transitoires, et 2 ans qu'elle a débuté les cours de musique ici.
Je m'appelle Abir, je viens de Syrie. J'ai 17 ans, mais je vais en avoir 18. La musique, c'est quelque chose de super. Comprendre la musique m'aide à mieux me comprendre moi-même. Quand je fais de la musique, je ressens des tas d'émotions différentes. Par exemple, quand je joue seule et que je suis de mauvaise humeur, ça m'aide à me détendre, à me sentir mieux. Les cours en commun, c'est vraiment chouette. On s'amuse ensemble. C'est comme si on était une équipe de football. C'est un travail d'équipe et moi, j'adore travailler. En équipe.
I like teamwork a lot.
Le football, c'est justement la passion de Judy. Encore plus que l'alto, confesse-t-il. Pour ce Syrien de 15 ans, la musique et par ricochet le ballon rond sont un pas vers l'intégration dans la société grecque.
I have two friends from Greek here.
Grâce à la musique, je me suis fait deux amis grecs. Quand on va à l'orchestre, on joue au football ensemble pendant les pauses. L'un de mes amis s'appelle Paris et l'autre Yanis.
De retour à Athènes, Eleni Liora explique qu'elle apprend la musique à ses jeunes comme elle enseignerait à n'importe qui, comme à des élèves lambda, comme elle dit.
En ce qui me concerne, j'essaye de faire abstraction du fait qu'on est dans un camp de réfugiés. Je ne pense pas à leur histoire. D'une, je ne la connais pas leur histoire. Et de deux, je prends en compte qu'ils aient potentiellement vécu des difficultés, mais je les vois plus comme des élèves qui sont là pour apprendre quelque chose. Je pense à eux plus comme des élèves à qui j'essaye de transmettre l'amour pour la musique que comme des enfants que j'essaye d'aider pour quelque chose. Je suis là pour eux, bien sûr. Mais je ne tiens pas compte de leur histoire dans ma manière d'enseigner.
L'ONG El Sistema, pour laquelle elle travaille, organise aussi des cours à Kypseli, un quartier multiculturel d'Athènes, où vivent de nombreux réfugiés et étrangers. À l'image de Souna, une fillette égyptienne de 10 ans, tout habillée de rose, qui a débuté la musique il y a un an. Elle entonne à présent Ma pomme rouge, une chanson grecque traditionnelle. En plus d'autres Égyptiens, elle dit par ailleurs s'être faite ici des amis qui viennent de Russie, d'Italie ou encore d'Allemagne.
Au début, je suis allée à la chorale pour apprendre des chansons et aussi parce que je pense que j'ai une belle voix. Comme j'ai vu des altos, j'ai voulu essayer et maintenant je prends des cours d'alto.
Pour José Salazar Marine, musicien vénézuélien et directeur artistique de l'ONG en Grèce, il existe au moins trois défis à enseigner spécifiquement à de jeunes réfugiés. Le premier, c'est le fait que certains restent peu de temps sur place. Et le second, qu'ils ont tendance, en raison de leur parcours, à avoir une capacité d'attention réduite.
Le troisième défi, c'est parfois la barrière de la langue. Au sein d'une même classe, les élèves parlent des tas de langues différentes. Nous essayons d'utiliser l'anglais comme langue commune, mais cela ne fonctionne pas systématiquement. De mon point de vue, la musique nous permet de surpasser cette difficulté, parce que la musique est aussi une langue en soi. Notre avantage, c'est de pouvoir communiquer à l'aide d'un instrument et pas nécessairement par la parole.
Demandeurs d'asile, réfugiés, immigrés, pendant le temps d'un intermède musical, qu'importe. Et même si pour certains élèves, cette escapade ne tient parfois qu'à un fil, pour l'heure, la parole mélodique est aux instruments à cordes.
Notre portrait est aujourd'hui celui d'un milliardaire, un des hommes les plus riches de Tchéquie, mais aussi du monde. Peter Kellner est aussi très lié au grand patron des médias, Daniel Kretinsky, actionnaire entre autres du Monde en France. Son portrait depuis Prague avec Alexis Rosenzweig.
Dans la famille des milliardaires tchèques, je demande le beau-père. Peter Kellner est en effet le père de la compagne de Daniel Kretinsky. Et il est encore plus riche que lui, avec un patrimoine évalué à plus de 15 milliards de dollars. Peter Kellner est à 55 ans la 73e fortune du monde et la 20e d'Europe. C'est dans le business d'imprimante qu'il commence sa carrière juste après la chute du communisme. Le passage brutal à l'économie de marché va lui permettre de réaliser des affaires plus que juteuses grâce à son fonds d'investissement qu'il nomme « Premier fonds de privatisation » ou PPF en tchèque, devenu géant de la finance, des assurances et des télécommunications. Aujourd'hui, PPF rachète donc CMI et notamment la première chaîne privée tchèque TV Nova. Cela suscite des inquiétudes sur la potentielle instrumentalisation des médias, en particulier en Tchéquie, où le marché médiatique a été réparti entre quelques grosses fortunes, dont les plus connues ne sont autres que l'actuel Premier ministre Andrej Babiš et le nouvel actionnaire du Monde, Daniel Kretinsky. Jusqu'ici, Peter Kellner préférait rester discret et ne diffuser que quelques clichés de lui dans les médias. En coulisses, en revanche, il n'hésite pas à financer les activités de l'ancien président tchèque europhobe Václav Klaus, et certains voyages de l'actuel chef de l'État, Miloš Zeman, notamment en Chine, où son groupe PPF est actif. Un éditorialiste du principal quotidien économique tchèque estime que Kellner risque en outre d'apporter son soutien à Václav Klaus Jr., qui, avec le soutien de son père, vient de former un parti nationaliste de droite. Pour les Pragois, le nom de Peter Kellner est aussi lié à la démolition d'un des grands hôtels qui surplombait Prague depuis les années 80, mais qui surplombait également sa grande résidence. Peter Kellner l'a racheté et fait détruire en moins de 3 mois.
Comprendre l'ex-RDA en allant se promener sur ses ruines, c'est l'idée de l'historien Nicolas Offenstadt qui a joué aux aventuriers de l'Arche perdue et en a tiré un livre, Urbex RDA, paru chez Albin Michel. Alors qu'on s'apprête à célébrer ce week-end les 30 ans de la chute du mur de Berlin, il a raconté à Juliette Rangeval en quoi consistait cette Urbex.
C'est bien sûr une promenade, plutôt sur les lieux abandonnés, délaissés par l'homme. Le deuxième caractéristique, c'est que ça se fait de manière non spécialement légale. C'est-à-dire que c'est pas une visite guidée. Alors effectivement, des fois, on teste. Il y a des bâtiments où on hésite. C'est-à-dire que vous arrivez en Allemagne de l'Est, tout est un peu, voilà, des régions un peu abandonnées, un peu ternes. Même les bâtiments habités sont pas toujours reluisants. Et puis vous tombez sur l'un, vous êtes un peu entre deux. Vous voyez des fleurs, par exemple, devant la maison. Mais en même temps, la porte, elle est bien fermée à clé. Il y a des pans de bois partout, les fenêtres sont scellées. Donc on hésite. Est-ce qu'il y a encore quelques habitants? Est-ce qu'il y a plus personne? Donc on teste. On ouvre la porte. Et une fois comme ça, en testant, je me suis fait attraper par la propriétaire. C'était une ancienne usine de chaussures dont je raconte l'histoire dans Urbex RDA, une ancienne usine de chaussures, et la dame, elle me dit « Mais ça va, vous faites quoi là ?» Progressivement, de sa méfiance initiale, elle m'a finalement permis de visiter, elle m'a mis à sa disposition son concierge, parce qu'en fait, elle avait racheté toute l'usine, et ils m'ont fait visiter des lieux tout à fait interdits et inédits, les sous-sols, il y avait de la défense passive en sous-sol, bref. Et elle m'a non seulement fait visiter les lieux, mais elle m'a aussi sorti toutes ses archives et la documentation qui permettait de raconter l'histoire de l'usine. Ça, c'est assez extraordinaire comme découverte, et pourtant, c'est pas les très hauts lieux. Ni de la RDA, ni de l'Allemagne contemporaine.
Parce qu'on trouve aussi dans ce livre quand même des très hauts lieux, par exemple sur les Trabantes, sur tous les chemins de fer, enfin des lieux qui sont aussi des lieux industriels forts.
Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai été visiter une très grande maison de la culture qui était un des plus grands symboles de la culture donnée aux ouvriers dans les années 50. C'était le haut lieu de l'industrie chimique à Buna. Donc ça, c'est très connu. C'est une très belle maison de la culture qui est totalement à l'abandon. Et puis, moi, je continue au Bec. C'est bon, puisqu'on est à la radio. Depuis le livre, j'ai réussi à rentrer dans les anciens bâtiments de la radio RDA. Donc vous voyez qu'ils sont symboliques, parce qu'il y en a certains qui ont été récupérés soit par des petites radios, soit par différentes entreprises. Mais il y a une partie des bâtiments administratifs de la grande maison de la radio de RDA à Berlin qu'on peut urbexer. Donc vous voyez, ça peut être aussi des lieux symboliques de l'histoire en général du pays.
On s'apprête à commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Si un auditeur se rend à Berlin demain, quels sont les 3 endroits qu'il pourrait avoir envie d'aller voir en urbex, justement, si vous faisiez une promenade?
Il y a un lieu qui est assez emblématique, qui est à Marzahn. C'est la banlieue est construite par la RDA. Il y a un ancien cinéma qui s'appelait le Soyuz, donc typique de l'époque RDA, qui est abandonné et qui va sans doute être repris. Donc c'est vraiment le moment d'aller le voir. On peut aller voir aussi une immense usine abandonnée avec au moins une vingtaine de bâtiments qui était l'usine de réfrigération et de frigidaire de Berlin. Donc ça, c'est un lieu génial. Il faut moins 2 ou 3 heures. Alors ça, c'est des types. C'est pas dans les guides touristiques de Berlin. Donc le cinéma Soyuz, cette usine de réfrigérateurs et de toutes les formes de froid qui est assez intéressante, qui était en plus sur un ancien aéroport. Ça, c'est 3 éléments. Et puis ceux qui veulent aller se promener autour de la maison de la radio, ça, c'est vraiment très chouette. Et puis ils peuvent même rentrer, s'ils sont un peu habiles, dans les ruines des anciens studios de la maison de la radio. Mais il faut pas le dire. On le garde entre nous avec les auditeurs d'RFI.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.